Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à la louange, merci à JP et tous les chanteurs. Merci pour nous avoir accompagnés dans ce merveilleux moment de louange. Et bonjour à chacun. Et ce matin, nous allons continuer notre étude des différents attributs de Dieu. Alors nous avons vu il y a 2 semaines que Dieu est grand. Nous avons vu la semaine dernière que Dieu est glorieux. Et ce matin, vous l'aurez compris, nous allons voir que Dieu est bon. Et nous allons voir ceci à travers le psaume 34. Alors, il y a quelque temps, je partageais avec un groupe de frères et sœurs que j'allais partager sur le thème « Dieu est bon ». Et je leur expliquais que j'avais du mal à choisir un texte pour ce matin. Alors, une des sœurs du groupe m'a dit « De toute façon, tu sais, Julien, tu peux prendre n'importe quel texte, car Dieu est réellement bon. » Et on peut, et on devrait voir qu'il est bon à travers l'ensemble de sa parole, dans chaque verset, de chaque chapitre, de chaque livre de la Bible. Alors sur le coup, je vous avoue, ça ne m'a pas beaucoup aidé à choisir un texte plus en particulier. Mais ça m'a rappelé cette vérité essentielle que l'on oublie parfois, que chacune de ses instructions, chacune de ses actions, chacune des choses qu'il permet et chacun de ses jugements sont bons. Et que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Le psaume 34 est un psaume de David, un psaume qu'il a écrit alors qu'il traversait une période difficile de sa vie. Après la victoire de David sur le Philistin Goliath, Saül, le roi d'Israël, est jaloux de David, et il le voit comme une menace pour lui et pour son trône. Et il décide alors de poursuivre David, afin de le mettre à mort. David fuit devant Saül. Alors il réfléchit où se réfugier. Il réfléchit et il choisit d'aller chez les Philistins, à Gath, la ville même de Goliath. Il se dit que là, au moins, Saül n'aura pas l'idée d'aller le chercher. Seulement, lorsque les serviteurs du roi Abimélec voient arriver David, ils le reconnaissent et ils l'amènent devant le roi Abimélec. C'est là que David réalise que son idée, elle n'était pas si merveilleuse que ça. Il réalise que si effectivement Abimélec le reconnaît, il le mettra à mort à coup sûr. Alors il décide de se faire passer pour un fou. Il se fait passer pour un fou devant le roi afin qu'il ne le reconnaisse pas et qu'il le laisse partir. Et ça marche. David l'a échappé belle et Abimélec le chasse loin de lui. Cette histoire nous est relatée dans le premier livre de Samuel au chapitre 21. On pourrait dire que David, à ce moment-là, il traversait un désert. Mais qu'il n'avait pas choisi le bon refuge. Le psaume 34 a été écrit à la suite de cette histoire, et David rend gloire à Dieu pour sa bonté envers lui. Il reconnaît que c'est dans le Seigneur que nous trouvons un refuge pour notre détresse, et que c'est le Seigneur qui nous délivre de tous nos maux. Faisons la lecture de notre psaume, psaume 34. De David. Lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute la fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun dos n'est brisé. Mais le malheur fait mourir le méchant, les ennemis du juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échapperont à la condamnation. Ce matin, nous allons voir que l'Éternel est bon, Dieu est bon, à travers quatre points. Non, c'est pas le bon sens. Voilà. Dieu est bon car il nous donne de le craindre. Ensuite, nous verrons que Dieu est bon car il est toujours là. Nous verrons ensuite que Dieu est bon car il est notre refuge, notre sauveur. Et enfin, nous verrons que nous devons goûter que Dieu est bon afin de voir que Dieu est bon. Le mot « craindre » est un mot, sans vouloir faire de jeu de mots, qui nous fait peur. Un mot qui a une mauvaise connotation et un mot que l'on n'a pas envie d'associer avec un Dieu aimant. Mais si on y réfléchit bien, est-ce vraiment une mauvaise chose que de craindre quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui veut notre bien? Car celui qui veut notre bien, eh bien c'est notre Père. Les parents, bien évidemment, aiment leurs enfants. Ils veulent ce qu'il y a de meilleur pour eux. Mais une des caractéristiques du parent, eh bien, c'est que leurs enfants les craignent. Et ça, d'une certaine manière, c'est une chose merveilleuse. Le week-end dernier, nous étions à Carmaux, avec les lycéens. Et lors de notre première soirée, nous faisions un jeu par équipe. Et le but du jeu, eh bien, c'était de trouver le plus de points communs que nous avions dans chaque équipe, dans chaque petit groupe. Il fallait réfléchir vite et spontanément proposer des choses que l'on pourrait avoir en commun. Nous avons dit, par exemple, que nous aimons tous Dieu. Nous avons tous un diplôme, le brevet des collèges. Et nous avons tous passé le code. Et là, spontanément, il y en a un qui dit « Moi, je crains un de mes parents ». Alors tous les quatre, on se regarde et puis on dit « Oui, c'est vrai, moi aussi ». La crainte d'un parent est essentielle, car elle nous permet de ne pas faire des choses qui autrement pourraient nous détruire. Mardi dernier, notre frère Luc nous partageait, il nous racontait une anecdote avec ses enfants qui ont maintenant l'âge d'explorer le foyer familial à quatre pattes et qui ont découvert, vous savez, ces deux merveilleux et mystérieux trous dans le mur dans lesquels on a tellement envie de mettre les doigts et que les adultes appellent la prise électrique. Alors il nous racontait que quand Santiago ou Timothée s'approchent trop de la prise, eh bien il a peur pour eux. Alors il gronde. Et quand il gronde, il s'arrête net. À ce moment-là, ils ressentent la crainte de leur père. Et c'est une bonne chose, car cela leur évite de faire une grosse bêtise. Vous voyez, le fait qu'ils grondent ne diminue en aucun cas son amour pour eux, bien au contraire. En leur faisant ressentir la crainte, il prouve qu'il les aime et il les rapproche de lui. Lorsque certains disent que parce que Dieu nous aime, nous n'avons pas à le craindre, ces gens-là voient Dieu comme un ami ou comme un pote. Mais Dieu n'est pas notre pote, il est notre Père éternel. Alors je suis bien persuadé que Luc est un très bon père. Mais Dieu est un Père parfait, qui nous aime d'un amour parfait, qui est bon. Et il veut qu'on le craigne, non pas parce qu'il est un despote ou un tyran, mais parce qu'il ne veut pas que nous mettions les doigts dans quelques prises électriques. La crainte de Dieu, en quelque sorte, est préventive. C'est un garde-fou qui nous permet de vivre en sécurité. Et le verset 8 de notre psaume dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. » Ce qui veut dire, comme nous l'avons illustré, que l'Éternel fait ressentir sa crainte à ses justes, à ses saints, c'est-à-dire à nous qui l'aimons, afin que nous ne fassions pas des mauvais choix qui pourraient nous détruire, afin que nous restions proches de lui. Au verset 10, nous lisons « Craignez Dieu, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Ici, nous voyons que si nous sommes attentifs à la crainte de Dieu, alors nous aurons de la sagesse dans la vie, nous pourrons faire de bons choix qui nous rapprocheront de Dieu et nous ne manquerons au final de rien. Mais là encore, la crainte de Dieu dans ce verset 10, eh bien, elle précède notre action. Elle est en quelque sorte préventive. Et c'est ce que font Adam et Ève. Et lorsque Dieu appelle Adam à lui, il lui demande « Où étais-tu ?» Et Adam lui répond « J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur, alors je me suis caché. » Ils ont eu peur et ils se sont enfuis loin de Dieu. Le diable veut nous inspirer une peur qui nous éloigne de notre Père, qui est l'opposé, en quelque sorte, de la vraie crainte de Dieu, celle qui nous rapproche de lui, celle qui nous garde en sécurité. Une peur qui nous fait croire qu'il n'y a plus aucun espoir, que nous sommes allés trop loin et que jamais nous ne pourrons nous réconcilier avec lui. Une peur qui nous fait oublier la croix et l'œuvre de Jésus-Christ. À ce moment-là, l'ennemi, il veut nous rappeler que Dieu est juste, qu'il a une loi et que le salaire du péché, c'est la mort. C'est vrai. Mais il veut aussi nous faire oublier que Christ s'est donné pour nous et a payé le salaire du péché, qu'il est mort à notre place, afin que tout en respectant la loi, nous puissions être trouvés justes devant notre Dieu. Dieu est bon, car il est toujours là, et il est toujours prêt à nous accueillir quand nous revenons vers lui, après avoir fait de mauvais choix. Rappelons-nous la parabole du fils prodigue. Le plus jeune frère prend sa part de l'héritage. Il s'éloigne de son père car il est tenté par quelques prises électriques, par quelque espoir d'une vie sensationnelle. Il dilapide tout son argent et quand il comprend qu'il a fait un mauvais choix, il se dit qu'il va revenir vers son père pour devenir un de ses serviteurs. Dans son esprit, il n'y a plus aucune chance pour que son père le regarde comme un fils. Il se dit qu'il est allé trop loin. Mais qu'est-ce qu'il se passe quand il revient vers son père ? Quand son père le voit arriver au loin, que lui, il est probablement en train de se dire « Mais comment est-ce que je vais bien pouvoir expliquer mon retour ?» Eh bien, le père, lui, il voit son fils arriver et il court vers lui. Il ne lui demande pas de s'expliquer, il ne le gronde pas. Il ne lui dit pas comme le fils s'y attendait « Tu es allé trop loin, tu t'es éloigné de moi, tu as dilapidé toute la fortune familiale. Maintenant, bien évidemment, tu ne peux plus être mon fils. Mais si tu t'excuses suffisamment, peut-être que je t'accepterai comme mon serviteur. » Non, non. Il l'habille, il lui passe l'anneau familial au doigt, il lui dit « Tu es mon fils. » Imaginez la joie qu'a dû éprouver le fils à ce moment-là. Lui qui, en revenant vers son père, s'attendait à un moment gênant, où il rougirait de honte, où il ne serait plus le fils de son père. Et ce qui est extraordinaire de penser, c'est que la joie du père est encore plus grande que celle du fils à ce moment-là. En effet, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 100 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Et ça, parents, eh bien, vous le comprenez bien. Si un jour votre fils ou votre fille s'éloigne loin de vous, et qu'il trouve ou qu'elle trouve la force de revenir vers vous, votre joie sera incomparable. Alors si ce matin, certains d'entre vous se sont éloignés de leur Père Céleste, s'il vous plaît, n'ayez pas peur de revenir à lui, car Dieu est bon. Il est toujours là, et il sera toujours là pour ceux qui tournent les regards vers lui. Et au travers de ce psaume, psaume 34, nous voyons que David, finalement, il est passé par une expérience quelque peu similaire à celle du fils prodigue. David, alors qu'il fuyait Saül, s'est réfugié dans le camp ennemi. Non seulement ça, mais après la victoire sur l'ennemi. Et en plus de ça, en portant l'épée de Goliath, son ennemi qu'il avait vaincu, dans la ville de Goliath. C'est quand même un peu ridicule. Pour reprendre l'exemple du foot, c'est un peu comme si après une finale de Coupe de France entre l'OM et le PSG, Et après la victoire d'un des deux clubs, un supporter aille dans le fan club du perdant en brandissant l'écharpe du vainqueur et en chantant « On est les champions, on est les champions ». Probablement pas une bonne idée. Et c'est probablement pas la meilleure idée que David n'ait jamais eue. Au lieu de se réfugier dans l'Éternel, il s'est réfugié chez l'ennemi. Et tellement c'est ridicule quand on y pense, eh bien on pourrait se dire qu'il y a de quoi rougir de honte. Mais non. Quand on revient à lui, quand on le cherche, comme le fait David lorsqu'il écrit ce psaume, eh bien l'Éternel ne se moque pas de nous. Peu importe à quel point nous pouvons paraître ridicules du point de vue de l'homme, et parfois nous aurons l'air ridicules du point de vue de l'homme, nous ferons de grosses bêtises. Il ne nous réprimande pas. Et il nous accueille, car il est bon. Les versets 5 à 7 disent « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » C'est vraiment un psaume merveilleux. Mais à qui ce psaume s'adresse-t-il? Au verset 3, nous lisons « Que les humbles écoutent et se réjouissent ». Au verset 7, « Les malheureux qui poussent des cris de détresse ». Au verset 8, « Ceux qui sont dans le danger ». Au verset 9, « Ceux qui cherchent refuge en lui ». Au verset 16 et au verset 18, « Ceux qui crient et sont dans la détresse ». Au verset 19, « Ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit abattu ». Dieu est notre refuge, notre sauveur. Mais qu'est-ce que cela implique pour nous et pour nos amis qui n'ont pas encore connu tout l'amour que Dieu a pour nous et son pardon en Christ? Il y a 7 ans, au mois de juin, j'étais à Paris pour aider un groupe d'étudiants avec un projet d'évangélisation. Nous étions à La Défense. La Défense, un quartier chic, avec des gens bien. Et donc, un après-midi, nous faisions de l'évangélisation. Et il y avait là un jeune couple sur des marches, assis. Nous sommes allés les voir. Ils étaient très gentils, très ouverts à la discussion, très polis, très courtois. Lui, il finissait ses études de droit. Il allait être avocat. Elle, elle voulait être médecin. Elle était en 3e ou 4e année. Deux jeunes gens très bien, avec tout ce que le monde a à offrir. Toute la vie devant eux. Un bel avenir en perspective. En quelque sorte, la vie idéale que tous parents rêvent pour leurs enfants. Une vie bien. Alors on a commencé à discuter avec eux et à parler de la Bible et de l'Évangile. Ils étaient très ouverts et enthousiastes. Ils disaient « Ah, vous voulez parler religion ? Très bon sujet de discussion. » Mais lorsque nous sommes arrivés à dire que tout le monde est pécheur, que tout le monde est condamnable devant Dieu, sans exception, et que nous avons tous besoin d'un sauveur. Là, ils nous ont dit qu'ils comprenaient bien que certaines personnes avaient besoin de Dieu, que certaines personnes avaient besoin d'un sauveur, que certaines personnes avaient besoin d'un refuge, mais que non. Ils avaient tout ce qu'ils désiraient, et ils n'avaient pas besoin d'être sauvés de quoi que ce soit. Ils n'avaient malheureusement pas beaucoup de temps pour discuter et pour qu'on leur explique plus précisément ce que l'on entend par péché et par le besoin d'être sauvé. Et ils sont partis, en pensant qu'ils n'avaient pas besoin d'un refuge ou d'un sauveur. Nous nous apprêtions nous-mêmes à partir, un peu déçus, quand nous avons remarqué que quelques marches plus bas, il y avait un homme d'une 50aine d'années qui nous regardait et qui pleurait. Il avait entendu notre discussion. Lui, il n'était manifestement pas de la même classe sociale que les deux jeunes. Il était en tongs, avec short et t-shirt. Il était sale. Il avait une bière à la main. Alors il nous regarde et il nous dit d'un ton presque criard « Moi, j'ai besoin d'un sauveur. » En gros, ce cri voulait dire « Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me sauve de mes détresses. Moi, je suis un malheureux qui cherche quelqu'un vers qui tourner mes regards. Moi, j'ai le cœur brisé et l'esprit abattu. Moi, j'ai besoin d'un refuge. » Vous voyez la différence entre ce jeune couple et cet homme? Eh bien, c'est que ce jeune couple expérimentait la vie comme une prairie verdoyante, alors que lui, il était en train de l'expérimenter comme un désert. Spirituellement parlant, cet homme comprenait qu'il avait besoin d'un refuge. Dieu est bon, car il est notre refuge dans les déserts. Et c'est dans les déserts que nous allons faire l'expérience de lui, de Dieu. Car Dieu, eh bien, il est bon dans nos déserts. Et nous avons besoin de lui. Et si nous ne sommes pas dans un désert, eh bien, nous n'aurons pas besoin d'un refuge. C'est dans les déserts que nous pouvons pleinement goûter que Dieu est bon. Le verset 9 nous dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. » Ce verset, tous les versets sont importants, bien entendu. Mais ce verset est quelque part un des versets centraux pour ce psaume. Et à travers ce verset, nous pouvons voir deux choses. La première chose, nous avons besoin d'un refuge et nous devons comprendre que spirituellement parlant, ce monde est un désert et ne pourra jamais pleinement satisfaire les plus profonds désirs de notre cœur. Ce monde ne pourra jamais nous donner ce que nous cherchons réellement, la vraie joie. Et ceci est très important à bien comprendre. Un jour, la vie est une prairie verdoyante. Et le lendemain, la maladie frappe. La ruine frappe. Une relation tombe à l'eau. Et nous nous retrouvons dans un désert. Et nous sommes là, dans ce moment, souvent en colère contre Dieu. Et nous disons, comment Dieu a-t-il pu laisser ça se passer? Mais il se cache en fait derrière cette question une présupposition. Nous présupposons que s'il n'y avait pas eu la maladie ou la faillite ou si j'avais pu me marier avec telle ou telle personne, eh bien je serais pleinement heureux et pleinement satisfait. La vie prendrait tout son sens. Et finalement, nous pensons que le travail de Dieu, l'œuvre de Dieu se résume à arranger les circonstances de notre vie afin que nous nous sentions comme dans une prairie verdoyante. Nous pensons que ce qui doit faire notre bonheur, eh bien, ce sont les choses que Dieu a créées, que lui, il les arrange et que nous, on en profite. Alors que ce soit dit en passant, quand même, je suis un grand fan des prairies verdoyantes. Et si en ce moment vous êtes en train d'en traverser une, gloire à Dieu, c'est une grâce. Ceci dit, Dieu est bon. Non malgré les déserts dans nos vies, mais au contraire, car il ne permettra pas aux gens qu'il aime de passer toute leur vie dans des prairies verdoyantes. Car dans les prairies verdoyantes de ce monde, nous nous sentons satisfaits, satisfaits d'une fausse satisfaction. On sentira toujours qu'il manque quelque chose, mais satisfaits tout de même. Et quand on est satisfait, eh bien nous n'expérimentons pas la soif de Dieu, la soif de la vraie justice, la soif de la vraie paix. La soif de l'amour véritable. Et ce n'est qu'une fois que nous serons privés de ces prairies verdoyantes éphémères, une fois que nous serons privés de ces sources qui tarissent, une fois que nous nous retrouverons dans un désert, que nous pourrons tourner les regards vers la vraie source de la vie éternelle. En Exode 17, le peuple d'Israël est à Mériba. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte à ce moment-là, mais il n'a pas encore atteint la terre promise. Ils sont dans le désert, ils ont soif. Mais il y a un rocher, et ce rocher c'est l'Éternel, et il leur donne à boire, et il les satisfait pleinement. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans les choses créées, mais lorsque nous cherchons le rocher, le vrai rocher, la vraie source de la vie, lorsque nous cherchons notre refuge dans le Créateur lui-même, la première chose que nous dit ce verset, eh bien c'est ça. C'est que dans nos déserts, nous pouvons réellement expérimenter la bonté de Dieu, lorsque nous le cherchons comme notre refuge. Maintenant, la deuxième chose. La deuxième chose que nous dit ce verset, et en fait la première partie de ce verset, c'est que pour comprendre à quel point il est bon, nous devons premièrement faire l'expérience de sa bonté. Goûtez et voyez, c'est-à-dire faites l'expérience, et alors vous comprendrez à quel point il est bon. il y a des choses que nous ne pourrons comprendre pleinement qu'en en faisant l'expérience. Si vous rencontrez par exemple quelqu'un qui n'a jamais mangé de sucre, vous pourrez essayer de lui expliquer combien le sucre est bon. Il pourra voir votre joie et votre satisfaction lorsque vous mangez du sucre. Il pourra, du coup, d'une certaine mesure, comprendre que le sucre est bon. Mais tant qu'il n'aura pas lui-même mangé de sucre, tant qu'il n'aura pas goûté à quel point le sucre est bon, il ne pourra pas le comprendre pleinement. On pourrait dire que l'action précède l'illumination, que le pas de foi précède la croyance. En 1869, quelques années avant sa mort, un écrivain et prédicateur anglais du nom de Thomas Binney écrivait ceci à propos de ce verset. Il existe certaines choses qui doivent être aimées avant que l'on comprenne qu'elles sont dignes de notre amour. Certaines choses qui ont besoin d'être crues avant que nous comprenions qu'elles sont effectivement dignes d'être crues. Dieu est bon. Mais afin de le comprendre pleinement, nous devons réaliser que ce monde est un désert spirituel et chercher notre refuge en lui. Nous devons chercher notre refuge en lui et alors goûter qu'il est bon, afin de le comprendre pleinement. Frères et sœurs, nous qui avons goûté combien Dieu est bon, nous qui avons cherché notre refuge en lui, partageons-le avec nos amis, nos collègues et nos familles, afin que eux aussi, ils aient envie de goûter que Dieu est bon. Parce que lorsque l'on voit quelqu'un qui goûte quelque chose qui est bon, on a nous aussi envie de le goûter. Et si certains d'entre vous, ce matin, n'ont pas encore goûté que Dieu est bon, et à quel point il est bon, je vous encourage à réaliser que la vie dans ce monde ne pourra jamais satisfaire les plus profonds désirs de votre cœur. Et je dis, je vous encourage à le réaliser, mais vous l'avez déjà probablement réalisé. Et je vous encourage à crier à lui et à tourner vos regards vers lui, à lui parler, à entrer en relation avec lui, afin que vous puissiez goûter et comprendre le vrai bonheur et à quel point votre Père Céleste vous aime. Car c'est par l'expérience, en apprenant à le connaître, que vous verrez que Dieu est vraiment bon. Prions. Notre Père, notre Dieu, tu es bon en toutes choses. Et parfois nous ne comprendrons pas pourquoi tu places certaines épreuves ou permets certaines choses dans nos vies. Mais Seigneur, donne-nous la sagesse de toujours te faire confiance dans toutes choses. Nous rappelons que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Seigneur, tu es bon car tu nous donnes ta crainte. Tu es bon parce que tu es toujours là quand on revient à toi. Et Seigneur, tu es bon particulièrement parce que quand le jugement est tombé sur le monde, là encore, tu étais là, et tu as choisi de mourir à notre place, en ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous la sagesse qu'a eue David dans ce moment, de trouver notre refuge en toi, et alors nous pourrons le dire comme David. Seigneur, que tu fasses toute ta fierté. Seigneur, que nous puissions dire toute ta grandeur et célébrer ton nom. Seigneur, que toute la gloire te revienne en tout temps, car tu es bon. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.